Bonjour et bienvenue sur FMR, nous sommes le samedi 14 octobre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui, maintenant? On l'a refait Thomas.
Hein? C'est n'importe quoi.
Oui, je sais, d'accord. Maintenant, le suppléant week-end avec lectu, BD, télé, baston, des sujets. Ça, c'est du sport à 13h, les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite?
À 15h, non, c'est à 17h, Big Bang, 18h, vie d'ordure, 19h, on est chez nous, 20h, la Stétéro Expérience, 21h30, stay tuned, de la musique, de la vraie, de la qui rythme et tout ça. Et oui, bien sûr, on va bien enchaîner. Ceci dit, aujourd'hui, il fait beau. Il fait chaud.
Oui.
Et
vous écoutez la radio.
Ah voilà. Et on a un supplément week-end qui est un peu spécial puisque on a des invités et en plus on fait une spéciale polar. Et à vrai dire, pourquoi? Parce qu'on est la poubelle des radios. Bon, c'est nul. On a loupé.
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Je loupe mes propres intros, c'est une catastrophe. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier, c'était pas nouveau quand même.
Ah ouais, c'est, ça m'étonne pas. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Xavier, je te connais pas assez pour juger, mais bon.
Mais de rien, tu vas voir, ça va aller très simple. C'est le supplément week-end, donc du samedi 14 octobre. On va parler de peine de mort, de polar. On va faire
de boucherie aussi.
Ouais, ça m'étonne pas d'ailleurs. Non, bon d'accord, ok. En attendant, ben une petite prog musicale qui va enchaîner, ben justement sur le thème du polar. Avec merci le lecteur CD.
Ouh là, le procès verbal il commence déjà. Tiens.
Bah tiens, là aujourd'hui on est bien parti. Puisqu'il s'agit de la bande originale de Ghost in the Shell, la saison 2, le second gig de Standalone Complex. Et c'est toujours Yoko Kanno qui fait le générique. Voilà. Aujourd'hui ça va pas du tout.
Thank you.
Bonjour et bienvenue donc dans le supplément week-end, on va parler spécial peine de mort, du sport d'ailleurs a pris son tablier de boucher, c'est absolument magnifique, et déjà en discussion, Pierre-Yves lui a déjà piqué le bouquin dont il va parler tout à l'heure, c'est vous dire si à mon avis le sujet est fort. Ah, il faut dire qu'éphémère fête cette saison ses 25 ans d'existence. Oui, c'est en décembre 1981 qu'est née cette radio de branque qui parle de choses plus ou moins rock'n'rollées. Mais il se trouve qu'il y a 25 ans, le 9 octobre 1981, la France mettait fin à une barbarie institutionnalisée. Pour se souvenir de ceux qui y passèrent, coupables ou innocents, vous êtes condamnés à écouter un supplément week-end spécial polar noir. C'est toujours mieux qu'une peine de mort, il faut dire, et on va dire que c'est un peu moins définitif. Oh, il faut dire que la loi du talion est un peu à la mode dans nos chroniques aujourd'hui, mais pas dans le bon sens. Dans Détenu 042, par exemple, on veut bien grasser un condamné. Non, je plaisante. À la prochaine mauvaise pensée. Quick ! Dans Prison Break, le héros se fait enfermer dans la même prison que son frère, condamné à mort pour se faire évader. Mais si j'ai invité sur le plateau un blogueur toulousain, c'est que la peine de mort fait inévitablement penser à un crime violent, un meurtre prémédité. Or, un polar noir raconte en ce moment l'enquête autour d'un meurtre. Et ce roman a une particularité. Il est en cours d'écriture par ses lecteurs, dont Nuit de Chine. Pierre-Yves, bonjour.
Bonjour Xavier.
Donc tu es blogueur, tu tiens un site qui s'appelle nuitdechine.org.
Ouais.
Voilà, et il y a cette aventure absolument extraordinaire.
Alors, enfin extraordinaire, on ne sait pas encore, parce qu'on ignore comment elle va se terminer pour l'instant. Mais oui, ça a commencé le 1er octobre, normalement ça se termine le 30 octobre, donc un épisode par jour, et écrit par les lecteurs, c'est-à-dire que chaque lecteur qui arrive sur le dernier épisode, s'il a envie de prendre la suite et que personne n'a pris avant lui,
il lève la main.
Il lève la main, il dit je prends, et puis il s'engage par contre à rédiger sous 24 heures l'épisode suivant.
Alors c'est pas n'importe qui écrit, ce sont des gens qui sont des blogueurs, mais attention, c'est pas des skyblogs bourrés de SMS et tout ça, non, c'est des gens qui écrivent en français, voilà. Notamment on s'est rencontré au Toulouse Carnet qui a eu, dans la dernière édition a eu lieu hier, donc ce sont des gens en général qui écrivent bien, c'est lisible, et on vous donnera l'adresse sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Vous pourrez peut-être vous aussi pourquoi pas participer si vous le sentez. Il y en a qui se disent ah non j'ose pas, et finalement ils s'y jettent.
Exactement.
Et des chapitres que j'ai vus c'était pas mal. Mais en attendant, Thomas lui il sort son sac à main, son nouveau petit studio.
Bon, nouveau petit studio au format sac à main, effectivement, à 2 euros. C'est le prix découvert du studio magazine petit format. Alors, c'est vachement bien pour travailler dans le sac à main ou même dans le métro pour le lire.
Ça change de l'équipe.
Oui, c'est-à-dire que c'est la même maquette que le grand format, sauf que c'est en plus petit. Et en plus, le texte est lisible. Bon, il faut pas trop regarder le lire à 2 heures du matin. Parce que bon, c'est quand même. C'est petit, mais il faut avoir des bonnes lunettes. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a en couverture Meryl Streep pour Le Diable s'habille en Prada, inévitable, avec un retour sur la carrière de Meryl Streep, une longue interview, et on a aussi un dossier à l'occasion de la sortie de L'Homme de sa vie de Zabou Breitman. On a un dossier sur cinéma et homosexualité. Alors évidemment, il y a aussi tous les petits dossiers sur les sorties DVD, sur sur le box-office, etc.
Donc c'est la même chose en ramassé.
C'est la même chose en ramassé. Il y a
Loupe non fournie, donc.
Oui, ah oui, oui, oui. Non,
donc on passe du grand écran en fait au format lecteur DVD de poche.
Exactement. on a aussi un portrait de, enfin un portrait des morceaux choisis de l'interview de Asia Argento qui est toujours intéressante à lire. Mais donc voilà, moi je suis, pour rien vous cacher, je suis pas très fan de studio puisque moi c'est plutôt mon truc, c'est plutôt Score. Et là Score, hélas, ils sont en train de faire du studio puisqu'ils se mettent à faire du généraliste, du on fout des filles, des nanas de la presse féminine en couverture. Voilà, bon, c'est beaucoup
c'est,
moins.
C'est facile à racoler quoi.
Voilà, c'est beaucoup moins agressif et moins ciblé qu'avant. Et je trouve que Score, Studio, Ciné Live, Première, c'est un peu le même acabit maintenant. Donc voilà, bon, Studio, c'est le mérite, c'est que c'est pas cher et que si vous aimez Meryl Streep, il y a à boire et à manger dedans. Donc je vous le conseille quand même.
Ouais, il y a George Clooney en quatrième de couve aussi. Hein.
Oui, mais ça, ouais, c'est, mais pour ça, une c'est pub, une pub. Pour un café. Et alors, du
sport, hôtel, ça.
Qui a réalisé cette pub d'ailleurs? Est-ce que vous savez qui a réalisé cette pub?
Je l'ai eu su, mon gars.
Donc ça veut dire c'est quelqu'un de connu.
John Woo, quoi. Je
non, ouais, c'est Night Shyamalan.
Non, c'est quelqu'un de connu qu'on n'imaginerait pas qu'il ait réalisé cette pub. C'est Alain Michel Chabat. Gondry.
Ah oui, 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 oui.
Ah voilà, bon.
Bon, c'était pas loin, la Chabat.
Ouais, non.
Remarque.
Ah bon, Gondry, ouais.
Voilà, c'était Studio Magazine 2€ en petit format et c'est le numéro 227.
Je laisse un fond sonore, en fait c'est le temps que du sport arrive à dépiauter son casque parce que il embrouille à mini dans le studio. Bon bah tant pis, voilà. Bah dans ce cas là on va passer à littéralement autre chose, c'est à dire que je vais demander à Pierre-Yves peut-être de se présenter et de présenter son blog.
Donc mon prénom c'est Pierre-Yves, effectivement. Mon blog c'est nuitdechine.org, w3.nuitdechine.org, nuit au pluriel, pas d'espace, pas de tiret ni rien. Ça fait à peu près 3 ans que je blogue, et ça fait un petit peu plus d'un an que je participe à ce genre de jeu littéraire, semi-littéraire plutôt, que Xavier a présenté, hein, entre l'hôtel des blogueurs, la tournée des blogueurs, maintenant Lucie.
On va expliquer un peu justement ce qu'est Lucie après, puisque c'est le roman en question, et l'hôtel des blogueurs, qui a été une grande expérience.
Alors, l'hôtel des blogueurs, effectivement, ça a été assez...
J'ai dit après, puisque là, on parle peut-être un peu de ce que tu mets dans ton blog, ce qui est quand même l'essentiel.
C'est quand même vachement difficile de demander à un type d'un peu plus de 40 ans de dire qu'est-ce qu'il fout dans son blog, parce que bon c'est pas un skyblog, hein, ça. Non, je parle un peu des choses qui me font rire plutôt dans la vie. Hein, alors c'est plus ou moins drôle, évidemment. Moi j'ai un humour déplorable, donc tant pis, ça, y a plein de trucs cons qui me font rire. Je parle de... Des rencontres que je fais, alors pas les rencontres à la Mythique, hein, ça c'est pas mon
c'est
truc,
pas
hein.
Jeunique, je
non non
mythique,
c'est pas Jeunique sur Mythique, non, c'est les amis que je croise, les gens que j'apprécie, les gens que j'apprécie pas et tout. Ça reste très anonyme, hein, je fais pas de délation, je fais rien. Il y a plein de gens qui me disent ouais tu devrais être plus machin, bon pour d'autres raisons, mais c'est pas mon truc. Non, j'essaye en fait de raconter un peu comment je vois ma vie ou la vie à côté. Mais bon, comme je suis un peu branque sur les bords, bah ça reste assez rigolo, quoi. C'est léger, assez rigolo. C'est pas un truc de philosophie, quoi. C'est vraiment pas ça.
On va parler donc des fameux jeux littéraires qui sont liés d'ailleurs à une personne qui est assez active dans les blogs parisiens, puisqu'il s'agit de Kozlika, qui avait initié donc l'hôtel des blogueurs, qui était une idée assez farfelue. C'est-à-dire que quand on fait un blog, on raconte pas forcément la réalité.
Non, je sais pas s'il y a vraiment une typologie de blog, mais on se scénarise un peu quand on raconte sa vie. Mais enfin, tout le monde, hein, je vais pas dire même moi, comme si j'étais au-dessus des autres, mais on scénarise un peu sa vie quand on parle de soi, c'est évident. On ne raconte pas forcément la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, mais ça a souvent quand même des morceaux. Il y avait des vrais gros morceaux de vérité à l'intérieur. L'hôtel des blogueurs, c'était une idée un peu différente, qui est de réunir virtuellement, évidemment, un certain nombre de personnes dans un hôtel, là où elles vont passer des vacances, et puis, ben voilà, hein, chacun reçoit un personnage d'une certaine manière ou le définit lui-même, c'est-à-dire ce qu'il veut jouer, comme un peu comme au théâtre, et ensuite eh ben on blogue sur ce qu'on a vu, ce qu'on a fait dans, donc là c'est du totalement virtuel, hein, il y a pas un seul véritable morceau de vraie vie dedans. On peut reprendre sa vie, son propre personnage, mais bon, c'est pas tout à fait, c'était pas forcément le but du jeu.
Oui, parce que ça tenait du jeu de rôle, puisqu'il y avait un background, il y avait une fiche qui était assez précise, il y avait les dates d'intervention, puisque c'était blogué temps réel.
Les dates d'intervention, c'est comme dans un hôtel, il faut réserver sa chambre quand même, hein. L'hôtel avait 20 ou 25 chambres virtuelles, maximum, donc il pouvait y avoir 25 personnes actives au maximum à un moment donné, hein. C'était vraiment supposé être, on est en vacances, à Oulgat, en l'occurrence, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on fait.
Ça a fait du volume, en plus.
Et ça a fait beaucoup de volume. Alors, on a eu un petit peu de mal, la première dizaine de jours a été très difficile parce que c'était une expérience nouvelle, hein, lancée par Kozlika, comme tu l'as dit. On essayait de, il fallait cadrer un peu, fallait pas épouvanter ceux qui n'avaient pas l'habitude des jeux littéraires. Il y a des gens qui sont plus timides dans la vraie vie ou dans la blogosphère que d'autres, donc cause pas rédiger à côté de certains poids lourds, si je puis dire, de la rédaction. Donc il fallait aussi mettre tout le monde en confiance, il fallait coordonner un certain nombre de choses, parce que c'est très difficile de prétendre que telle personne a mangé, a fait diverses activités avec un autre participant, si l'autre participant n'est pas d'accord, et donc s'il fait une note qui dit totalement le contraire, donc il y a des éléments de coordination et tout. Donc, globalement, la première dizaine de jours, c'est parti un peu dans tous les sens, et puis on a bien recadré, et finalement, pendant 2 mois et demi à peu près, vraiment, on s'est énormément amusé à faire ça, à lire, à relire, etc.
Et là, il y a eu cette histoire, puisque Kozlika, en fait, quand on va sur son blog, qui s'appelle Causerie en dilettante, c'est une grande fan d'art littéraire. Quelle chronique sur son site, un peu comme je fais moi pour la bande dessinée et Thomas pour le cinéma. Et sauf qu'elle a descendu en fait Lucia.
Alors c'est pas d'art littéraire mais d'art opératique, c'est l'opéra, hein, c'est une grande fanate d'opéra et elle a pas descendu Lucia de la Mer Mort qui passe actuellement à l'opéra de Paris mais elle l'a assisté à la générale il y a pas très longtemps et elle n'a pas du tout aimé la mise en scène. Donc elle a fait une note un petit peu assassine sur la mise en scène en elle-même et bon, il s'est avéré qu'en fait cette idée-là a servi comme ferment de ce qu'on est en train d'appeler nous Lucie, hein, ce roman écrit au jour le jour. C'était pas du tout l'intention, hein, mais en fait la personne qui a rédigé le premier épisode, il est parti sur quelque chose de très semblable à ça. Donc ça a effectivement donné la teneur du roman qui est en cours d'écriture.
Oui, alors tout à fait. Donc je vais faire mon chroniqueur télévisuel et je vais lire donc l'introduction. La violence et sanglots qui secouent la jeune femme l'empêchent presque de respirer. Ils sont noyés par le vacarme infernal du moteur et les crissements des pneus dans les virages. La décapotable jaune dévale la route sinueuse en direction de la ville endormie. Lucie maintient l'accélérateur fermement enfoncé, bien que ses larmes l'empêchent de plus en plus de voir la route devant elle. Le pompier qui le lendemain examinera son corps à demi calciné au fond d'un ravin sera tout de suite intrigué par une marque rouge très visible dans son cou, comme une grosse piqûre. Et là, grosse coupure, et ça commence par « saleté de beignet ». Le commissaire Scott s'était assoupi en écoutant la radio lorsque le téléphone sonna. Il sursauta et fit tomber l'assiette de beignet qu'il était en train de déguster avant de s'endormir. Il essaya en vain de trouver un mouchoir dans sa poche pour s'essuyer les mains avant de décrocher, et ne réussir qu'à salir le pan de sa veste. Dans son demi-sommeil, son cerveau avait du mal à remettre les neurones en route, il ne savait pas très bien qui lui parlait, un meurtre à l'opéra, un cadavre sur la scène, on le demandait. Il attrapa son manteau et sauta dans un taxi. Il fallait que ça tombe sur lui. L'opéra, il n'y mettait jamais les pieds. Il avait du mal à comprendre comment on pouvait rester assis plusieurs heures à écouter des chanteurs obèses et poumonnés raconter des histoires sans queue ni tête dans des costumes ridicules. Et à partir de là, donc il y a toute une histoire. Chacun en fait introduit un peu ses personnages quand il a envie.
Voilà, exactement. Il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas de coordination entre les rédacteurs. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait un minimum de cohérence dans l'histoire. C'est
donc
évident.
Des fois, c'est un peu réécrit par la suite.
Ça sera réécrit par la suite, hein, c'est-à-dire que on est sûr qu'il va y avoir des erreurs, des problèmes de soudure. Donc il y aura une deuxième phase.
Il n'y a pas du tout de bible.
Non, il n'y a pas de bible.
Comme on dit, hein, dans le jargon.
Voilà, ouais.
Exactement. Donc il y a une spontanéité réelle.
C'est
voilà.
très spontané. Alors il y a un risque évidemment, c'est que ça parte
en live,
voilà comme tu dis. Mais bon, ça c'est un risque qu'on assume et puis on corrigera le tir s'il le faut ultérieurement quand on réécrira dans la deuxième phase, on corrigera ces erreurs là.
Oui, on l'espère en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il y a des petites expériences, des changements de cadre et tout ça, et les règles sont relativement simples. Tu m'as dit qu'en fait, il y avait une taille maximale et puis point barre.
Voilà, exactement. La taille maximale qui a été fixée, c'est pas une taille impérative, c'est à peu près 3000 signes. Donc ça fait un écran et demi sur un navigateur normal. Hein, donc il faut que les épisodes restent relativement rapides à lire, simplement pour qu'on passe pas deux plombes à comprendre ce qui se passe. Hein, c'est pas un roman au sens le plus global du terme. Et à côté de ça, il n'y a absolument aucun impératif. Il n'y a pas d'impératif de minimum, il n'y a pas d'impératif de style. Si quelqu'un veut partir dans une direction qui lui convient, il part dans cette direction qui lui convient. Les suivants, ils devront assumer les choix. C'est un peu du tac au tac, hein, la vieille émission télévisuelle des années 70. C'est part sur le même principe, quoi.
Et donc chaque personne qui va s'engager à écrire un nouveau segment en fait a une journée pour le
voilà.
faire.
Voilà. À partir du moment où l'idée c'est d'avoir un rythme quotidien de publication d'un épisode. Donc à partir du moment où un épisode est publié, c'est le premier volontaire qui dit qu'il prend. Donc là, il doit publier sous les 24 heures son épisode suivant.
D'accord.
On essaye d'éviter qu'il y ait deux épisodes publiés la même journée. Ça peut arriver, mais c'est rare. Enfin, c'est pas encore arrivé aujourd'hui. C'est vraiment un par jour, en espérant bien sûr qu'il y ait des gens qui prennent et qui publient suffisamment tôt, parce que si on publie à 23h, ça va être un petit peu difficile pour la suite, pour le jour suivant, quoi.
Et puis surtout, il y a l'expérience de chacun des auteurs qui arrive, puisque on a Kankoslika repris. Je crois que c'est au deuxième jour. Mmh. Elle introduit un policier qui est fou d'art lyrique et qui va expliquer, qui va donner un peu les clés de l'œuvre. Il y a un expert qui arrive, c'est assez rigolo justement de ce côté-là sur les personnages qui du coup ont vraiment chacun leur personnalité.
Oui, chacun amène un petit peu son bagage. Hein. Quand on rédige, c'est comme dans le blog, hein, on parle de choses que l'on essaye de connaître, de maîtriser. Donc effectivement, on a vu Caruso, ce brigadier, ou je me souviens plus de son
ouais,
grade.
Je crois qu'il est que planton, un truc comme ça.
Peut-être. Ouais. Ouais. Je crois, mais il est possible qu'on l'ait monté en grade un peu après, parce que bon, qui lui, effectivement, va décrypter l'opéra pour l'inspecteur qui n'y connaît rien. On a vu une journaliste qui est passée brièvement, qui est en fait écrite par quelqu'un qui est aussi journaliste. Donc elle incarne, je ne sais pas si elle incarne son personnage, mais ça reste dans un monde qu'elle connaît. Et chaque auteur, il n'est pas obligé, hein, il peut effectivement amener des petits morceaux de lui ou des petits morceaux de personnages qu'il aime bien ou des petits morceaux de certains éléments qu'il connaît bien pour enrichir l'intrigue ou pour ramener des éléments qui peuvent manquer, hein, du décor autour, pour donner un peu plus de matière, quoi. C'est ça qui est très amusant dans le jeu, c'est voir qui amène quoi, comment, quels sont les différents styles d'écriture, parce qu'effectivement quand on lit les épisodes à la file, on se rend bien compte que c'est pas le même auteur, mais il n'empêche qu'il y a une homogénéité globale, quoi. Mmh.
Thomas, peut-être une question?
Non.
Non, il est scotché.
Ouais, il est scotché, ouais. Pierre-Yves, donc ton site c'est nuitdechine.org, oui. Et on retrouve justement à partir de là le roman en question qui s'appelle Lucie. Mmh. Et on peut essayer de le reprendre à la volée, mais il vaut mieux avoir son site perso.
Alors soit vous avez un, soit c'est un blogueur effectivement qui reprend, dans ce cas-là il publie sur son propre site. Sur son propre blog, et après il signale à l'auteur de l'épisode précédent pour qu'on mette un lien vers l'épisode suivant pour permettre en fait une promenade de blog en blog. Soit c'est un auteur qui n'a pas de blog, donc en commentaire de l'épisode qu'il veut reprendre, il dit qu'il prend et il envoie à l'auteur de cet épisode précédent, il lui envoie sa prose qui sera publiée sur le blog en question, en disant bien que c'est rédigé par quelqu'un d'autre. C'est arrivé une ou deux fois déjà, hein, donc des non-blogueurs qui ont voulu reprendre, qui ont repris, qui ont envoyé à l'un des blogueurs participants qui a fait le lien, et on continue comme ça. Donc on n'est pas du tout, il n'y a pas d'obligation d'avoir un blog si on veut rédiger. Et d'ailleurs, je suis obligé de dire que là, l'épisode 13 d'hier, de vendredi 13, n'a pas encore de repreneur. Donc s'il y a des volontaires, allons-y. Hein.
Allez-y les gars, parce qu'il vous reste plus que...
il reste une douzaine d'heures, sinon après, on sera obligé de clore l'aventure. Ça fait partie des règles du jeu. S'il n'y a pas de repreneur, on rédige un chapitre final et puis on met un point.
Pierre-Yves, tu restes avec nous dans le supplément week-end. On va entamer les bandes dessinées.
Je vais demander un truc. Est-ce qu'un épisode peut être refusé pour mauvais niveau?
En principe, non.
D'accord.
Il n'y a pas de comité éditorial, justement.
D'accord.
Donc voilà.
Pourquoi tu veux rédiger
c'était juste une question comme ça. Je me disais.
On va entamer les bandes dessinées de suite. Avec une nouvelle série qui est scénarisée par Pascal Hervé et dessinée par Filan, il s'agit de Tupac. Attention, il ne s'agit pas effectivement du rappeur auquel vous pourriez penser, puisque en fait Tupac, et ben c'est dans ce cas c'est un prénom péruvien. C'est le premier tome vient de sortir, il s'appelle Julia, dans la collection Turbulence chez Vent d'Ouest, et ça se passe dans un Pérou corrompu et violent. Un Pérou actuel, quoi, et absolument sans concession. Dans un pensionnat de Lima, où débarquent des tueurs, décidés à éliminer une orpheline, Julia, une gamine, elle a 6 ans. Mais celle-ci aura sa chance en croisant dans sa fuite nocturne un clochard, George. Une rencontre providentielle, car George, tout d'un combattant, et va justement mettre au tapis les assassins, que d'ailleurs il reconnaît comme d'anciens compagnons d'armes, du Sentier Lumineux, hein, je vous dis. Sorti d'une guérilla, c'est... D'un côté, ben, on a un clodo, et de l'autre, on a des mercenaires surarmés. Aïe. Il recueille cette jeune fille et fait passer Julia pour son fils sous le nom de Tupac, histoire d'être sûr que les commanditaires perdent sa trace dans les favelas. Mais au fait, qui peut bien payer d'un placard tueur pour éliminer une gosse des rues comme ça? Les deux auteurs de cette nouvelle série ont presque 40 ans et sont novices dans la bande dessinée. En fait, ils se sont rencontrés sur Internet, là aussi, dans l'atelier BD de Joseph B., un cours de correspondance qu'il a monté il y a maintenant 4-5 ans. Pour un premier album, on sent qu'ils ont été très bien cadrés et qu'il y a un certain professionnalisme. Ça fait du bien en tout cas d'avoir été justement épaulé par un spécialiste des polars, puisque Joseph B. a dessiné Péché Mortel, Chimère et Double Jeu. Et ajouter une passion palpable pour le Pérou dans du scénariste, on a vraiment un album qui est bien charpenté, une nouvelle série qui s'annonce vraiment comme intéressante. Tupac, le premier tome s'appelle Julia, c'est dans la collection Turbulence chez Vent d'Ouest, c'est de Pascal Hervé et de Finland. Je sais pas, toi tu viens de le feuilleter rapidement, Pierre-Yves, t'as pensé quoi?
Le graphisme me surprend un peu. C'est un trait auquel j'ai pas l'habitude, hein, c'est tout. Après, il faudrait que je l'ai vraiment feuilleté, hein, sans plus. L'histoire m'a l'air de partir un peu dans l'ésotérisme ou sur les dernières planches, mais c'est tout ce que je peux dire. Hein. Apparemment, ça déménage un peu.
Enfin, oui, c'est action. Ça a l'air,
voilà, il y a de l'action.
Et puis voilà. Yoa Yotegawa est une dessinatrice japonaise, une mangaka, et Big Kana vient de traduire le premier tome de sa série Détenu 042. Oh allez, un petit peu d'histoire. C'était le 10 octobre 1981 que la peine de mort était enfin abolie en France. Et 25 ans jour pour jour, alors que justement je lisais un billet d'un blogueur qui s'appelle Maître Eolas, qui était assez touchant là-dessus, et ben... m'arrive dans les mains cette fiction japonaise où ce pays très conservateur mettrait lui aussi fin à cette pratique barbare. Amnesty International d'ailleurs reproche régulièrement le sort absolument inhumain dans lequel sont détenus les prisonniers japonais condamnés à mort, et quand dans les premières pages on parle de l'état de quasi-animalité, la réalité en est très proche. Le prisonnier est déshumanisé et n'ayant le droit de ne répondre qu'à son matricule, plutôt un numéro plutôt que son nom, là aussi on est dans une réalité qui est assez sordide. Le protagoniste principal n'est pas maître de son corps, de son identité et encore moins de ses pensées, puisque le programme pilote qui aiderait à la fin de la peine de mort au Japon consisterait à lui laisser une liberté relative mais vénéneuse. À la moindre pensée violente, on le tue. En voilà un raisonnement simpliste, radical, dangereux et inapplicable à la singularité du sujet d'expérience. Car le détenu 042 est un meurtrier, un homme qui en a tué 7 autres, absolument froid. De ce côté-là, il fait un peu penser au personnage principal de Monster. Mais en fait, il a été victime de l'engrenage de la mafia et sa seule issue, c'était de tuer les gens sur le ring. L'incroyable froideur avec laquelle il l'a tué font de lui le sujet idéal pour cette expérience pilote. Et pour pouvoir juger la validité du système, c'est-à-dire qu'on lui implante une puce dans le cerveau, ben on fait travailler le détenu 042 dans un lycée. Et tant qu'on a affaire, ben en tant que jardinier. Évidemment, la présence d'un tel homme provoque des rumeurs, des suspicions, voire de la haine. Et c'est le risque, et c'est pour voir s'il est capable de se réinsérer dans une société en tant que lobotomisé, une société qui est quand même assez violente et brutale, sous les côtés un peu policés et soi-disant civilisés. À vrai dire, dans sa vie passée, il a tellement souffert qu'en jardinant, eh ben, il découvre enfin la paix intérieure. Et que le sort d'une lycéenne aveugle, la seule qui ne le fuit pas, ne le laisse pas indifférent. Mais en tant que sujet d'expérience, il est continuellement surveillé, suspecté, observé. La seule émotion réellement sincère qu'il éprouve, enfin, pourrait lui être fatale. Cette histoire reste qu'une fiction, une anticipation, et appartient par là même au genre de la science-fiction. Celle où on pourrait analyser électroniquement la pensée d'une personne en lui ayant implanté une puce dans le cerveau. Et la puce pourrait lui exploser la calboche si jamais il a une mauvaise pensée. Alors encore, c'est philosophique, est-ce qu'il peut être une mauvaise pensée et tout le reste? Bon, ce n'est pas qu'il ne peut être qu'une fiction qui ne peut pas avoir la même force que la série Say Hello to Black Jack, qui à l'époque avait provoqué un immense tollé sur les conditions des étudiants en médecine. Est-ce que vous imaginez une manga qui, à l'époque, a fait plier le gouvernement et a conduit à des lois sur, le revenu minimum des étudiants, sur les conditions de travail des internes en médecine? Détenu 042 n'aura pas ce destin, mais il véhicule une émotion assez forte jusque dans sa jaquette, embossée en braille. Yuya Yotegawa, Détenu 042, le premier tome vient de sortir dans la collection Big Kana, et qui est une sous-maison d'édition du groupe Dargo. Oui, Thomas.
T'as encore réussi le tour de force de parler de Say Hello to Black Jack.
Yes.
C'est chaque chronique, il va essayer de le placer.
Ouais, non, mais il a parlé de Monster, justement. C'est bien pour ça que le docteur Tenma, il a allé étudier en Allemagne.
Voilà.
Au lieu de faire ses études au Japon.
Promis du sport, je l'ai retrouvé les tomes. Il m'en manque qu'un à retrouver, il m'en manque qu'un, promis.
Je voulais pas le faire à l'antenne, tu vois. J'attendais les pubs.
On est à la bourre. Il y a un JPU qui me dit t'es en retard de 3 minutes.
On en passait pas moins par contre.
Xian Tiaoyu au fond du rêve aux éditions Tiaopan, et ça se passe dans un institut de recherche psychiatrique. C'est un one shot où le docteur Harry Marek, qui d'ailleurs fume un peu trop pour sa santé, souhaiterait guérir un de ses patients victimes de ses rêves. Un vieil homme qui se réfugie dans son inconscient, vivant d'aventures extraordinaires dans son imagination foisonnante. Après tout, son blog, c'est son cerveau. Mais laissant son corps dépérir. Seul moyen de le sauver, entrer dans ses rêves avec lui et le convaincre de revenir sur Terre. Grâce à une machine infernale légèrement décalquée sur Akira, le docteur Marek entre dans le rêve de son patient et le démolit. Il imagine des éléments incongrus pour le sortir de sa situation, comme une charge d'hélicoptère, alors que le rêve c'est de la médiévale fantasy, et j'en passe et des meilleurs. Sympa le traitement. Là aussi le patient est déshumanisé puisque le docteur l'appelle non pas par son nom mais par un numéro de matricule. Oui, mais voilà, os dans l'histoire. Parce que ce patient est censé être un célèbre auteur de romans et que c'est justement là où l'histoire marche mal. En fait, tout est survolé, alors même que l'univers du rêve dans lequel on nous laisse entrevoir semble riche. Donc il y a beaucoup d'idées, mais le médecin les piétine sans finesse, et après tout l'auteur lui aussi. Je suis très déçu par l'histoire, elle a un énorme potentiel, mais finalement elle se sabote d'elle-même. Et c'est vraiment dommage, je ne saurais pas ce qu'il y a finalement au fond du rêve. C'est le premier bouquin qui m'a déçu, édité par Tiaopan. Zhang Xiaohu, au fond du rêve, chez Tiaopan, peut-être à éviter. En tout cas, c'est à mon sens, c'est un peu dommage. Pierre-Yves, toi, tu t'as craqué pour un bouquin de Tiaopan récemment?
Oui, j'ai. C'était d'ailleurs suite à une de tes rubriques, comme quoi ça sert, hein, mine de rien.
Merci.
Oh. Oui, ouais, si, si, ça arrive. Hein. Il y en a comme ça. C'était à la recherche de l'élixir céleste, je crois.
À la recherche de l'esprit céleste.
De l'esprit céleste, voilà. Donc l'histoire d'un.
Tu sais, elle est chez moi la BD.
Bon bah, donc il y a au moins deux personnes qui l'ont oui. qui l'ont pris. C'est, il a doublé son score habituel, hein, c'est bien. Alors moi j'ai effectivement beaucoup aimé. Bon, je suis pas un grand consommateur de manga ou de ce genre de d'ouvrage. J'y suis pas totalement hermétique non plus. J'ai beaucoup aimé le traitement graphique. Il est assez original. Bon, le fait que je sois néophyte, ça m'aide peut-être aussi à c'est plus, peut-être plus facile de m'en mettre plein les mirettes. L'histoire est très sympathique puisque c'est un gamin. Malheureusement pour lui, fils et héritier d'une grande dynastie de super balèzes du kung-fu, puis lui il veut juste faire du skateboard, donc c'est bon, ça reste très drôle, ça reste léger, c'est pas excessivement violent, et il y a beaucoup de thèmes que j'aime bien moi, qui sont des thèmes venus de l'histoire ou de la culture ou de la littérature asiatique, qui sont mélangés un petit peu partout. C'est vraiment très très sympa, ouais. Donc merci Xavier, hein, je te dis merci.
On me fait signe derrière. Ah, pub, la pub, la pub. D'accord, ok, mes amis, on y va.
Les Fishbones sont de retour. En ville, le jeudi 19 octobre, les Vents du Sud accueillent le combo états-unien. Alors oui, il y a des arêtes dans le beefsteak. C'est ce que Angelo et ses potes viendront te prouver. Et du coup, te voilà rattrapé par le virus de la fusion libre. Jeudi 19 octobre, les Fishbones, les Vents du Sud. Samedi 14 octobre, Juliette Lewis viendra vous lécher les oreilles d'un bon vieux rock'n'roll à la Iggy Pop. Mais vu le nombre d'heures que vous avez passé à lécher votre télé en regardant Tueur Né ou Strange Days, c'est un juste retour des choses. Juliette and the Leaks est au balcon, samedi 14 octobre au Vent du Sud. Et si le vent est fort, il soulèvera sa jupe.
Et oui, on est en train de discuter hors antenne, tranquillement, de se dire, ah oui, ce serait bien si tu me prêtais tel truc, et si, et ça. Mais on est dans une spéciale polar dans le supplément week-end, et Thomas va y aller d'ailleurs justement dans le polar. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que tu te calmes un peu, parce que je crois que c'est un petit peu brutal, donc faut éviter. Hein. Je te rappelle que les films interdits aux moins de 16 ans, c'est après 23h normalement que tu devrais les chroniquer.
Oui, ouais, attends, tu vas voir, parce que moi, dans ma sélection de films de la télé cette semaine, je vais voir que tu vas pas être déçu du voyage.
D'accord, merci, on y va. La sélection DVD vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Et avant de parler de la catégorie interdit aux moins de 16 ans, on va commencer par un film montrable à tout le monde à peu près, puisqu'il s'agit de SPL. Vous avez pas pu le rater, on en fait la promo monstrueuse à la télé en ce moment, c'est
SPL.
Voilà, et ça finit par ça va cogner. Voilà. C'est un film de Wilson Yip et c'est
ça aurait pu être Wesley Snipes.
Oui, oui. Alors c'est avec Donnie Yen qui est la nouvelle star des arts martiaux, même si ça fait pas mal de temps qu'il exerce dedans. Hein. Mais avant il était connu, mais maintenant c'est quand même un mec, c'est par qui, enfin par qui tous les projets intéressants passent maintenant à Hong Kong.
Ouais, c'est le nouveau Jackie Chan, on va dire.
Oui, sauf qu'il est pas dans le comique, lui. Et il est à la fois chorégraphe, acteur. Je crois que même qu'il est co-réalisateur. Enfin, de toute façon, les chorégraphes, ils sont co-réalisateurs des films aussi. Il y a aussi dans ce film Sammo Hung et Simon Yam. Alors,
ah non, non, pas le flic de
Shanghai. Non. Mais attends. Le flic de Shanghai, en fait, hein, c'est juste la série qui a permis un petit peu de le faire connaître aux États-Unis.
Oui, c'est clair. Mais sinon, il a joué dans Jackie Chan contre les pirates, dans plein de films.
Bah, non, mais il a réalisé des films de guerre aussi. Il a commencé dans les années 70 la filière habituelle, à savoir les films cascadeur, puis chef des cascadeurs, le mec qui faisait des chorégraphies pour les différents films qu'on connaît bien. Donc c'est un homme tout à fait respectable.
Oui, mais Sammo Hung,
à cause de son volume.
Il faisait partie de la troupe de Jackie Chan avec avec un autre, mais il est pas très connu en France. Je sais plus comment il s'appelle. Ça faisait partie des merveilles ou les 7 merveilles ou les 8 merveilles de Pékin. C'était une troupe justement de cascadeurs, etc. Et il a fait pas mal de films où il a toujours été gros de toute façon. Il a.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Ouais.
Ah d'accord, c'est pas un rôle de composition son bide.
Et voilà, donc Sammo Hung là, il joue un rôle d'un enculé dans ce film-là. C'est le rôle d'un parrain, c'est la première fois qu'il joue un méchant d'ailleurs. Et donc, on retrouve aussi Simon Yam qui est un acteur fétiche habitué des films de Johnny To et qui joue aussi un rôle complètement à l'opposé dans l'autre film que je vais chroniquer après. Alors Espel, ça veut dire chat, peau, langue, chat pour mort, peau pour destruction et langue pour cupidité, qui évoque un peu en fait une idée chinoise comme quoi
en cantonais ou en...
En cantonais, oui.
Ou en mandarin.
Qui évoque dans la tradition chinoise le destin qui attend les hommes, qui est basé sur les actions qu'ils commettent dans leur vie. C'est ce qui va laisser augurer de la fin de certains personnages. Parce qu'il y a trois personnages principaux dans ce film. Et on peut dire que le thème principal du film, c'est la paternité, puisqu'il y a deux des trois personnages principaux qui sont papas. Et justement, c'est un fait qui va être assez important pendant tout le film. Alors, on parlait de Donnie Yen, puisque le mec, ça vous fait un peu rigoler, mais il a été connu aussi en Occident, parce qu'il a joué dans Highlander 4. C'est lui, il est vachement fort, il fait partie de l'équipe du mec super enculé à la fin et il se fait dégommer par le mec qui cachait deux épées à l'intérieur d'un sabre.
Oh là, c'est Mario Van Peebles.
Ah non, ça c'est
c'est un niveau de ma culture.
Non, ça c'est le 3 ça, Highlander.
Tu vois sur lequel
ça, je te parle du 4, Highlander 4 The Endgame
avec Adrian Paul.
Voilà.
Ah d'accord.
Voilà. Et il a fait aussi les chorégraphies de Blade 2. Ça, tout le monde l'a vu ici, je pense. Le Blade 2 avec l'actrice qui parle en français aussi, avec toujours Wesley Snipes. Enfin bref.
Mia Sorvino.
Non, c'est avec un nom en consonance roumaine, mais c'est pas grave. Léonore Varela, voilà. Ça s'appelle. Alors, la promo du film était concentrée autour du fait que c'était un polar martial. Alors le truc, c'est que c'est quand même une nouvelle. On va dire une nouvelle orientation des films des polars avec des arts martiaux de Hong Kong actuels, c'est-à-dire que ils vont accentuer toute leur mise en scène pas sur la brutalité mais sur les beaux éclairages, les personnages intéressants.
Tu veux dire filles. L'éclairage de la mort, le fond bleu et
tu sors.
Je suis le maillon faible. Au revoir.
Voilà. Et alors le truc, c'est que ce film, il faut savoir qu'il n'aurait pas pu voir le jour s'il n'avait pas eu Hong Bak, parce que en fait les Hongkongais ils ont la rage sévère parce qu'ils sont fait damer le pion par ce film thaïlandais avec Tony Jaa. Ils se sont dit merde, il a cartonné chez nous, il faut qu'on fasse la même chose, il faut qu'on arrête de faire nos chorégraphies à la con avec des câbles depuis qu'on fait ça depuis 20 ans et il faut qu'on se renouvelle un petit peu. Et donc il y a Donnie Yen, il a dit ok, bon, on va essayer. Et là, la principale innovation dans les films, dans les combats d'arts martiaux dans le film, c'est les clés de bras et les certaines figures au sol héritées de l'Ultimate Fighting. Alors le truc, c'est que on veut bien qu'il fasse des clés de bras, etc. Mais l'intérêt de Hong Bak, c'était non seulement les figures inédites au cinéma de boxe thaï avec des coups de coude, etc. Mais surtout la mise en scène.
parce que même si Hank Back, bon, c'était un peu plat, le film d'après qu'ils ont fait, l'équipe, c'était L'Honneur du Dragon, et là, ça cartonnait sa race, parce que là où ça meulait grave à l'écran, c'est que le mec qui allait prendre le coup, il était juste à côté d'une huître, il était statique, et là, Tony Jaa, il surgissait de leur champ, bah, avec le genou, et puis il fracassait le mec. Et le truc, c'est le dynamisme des scènes d'action provenait justement que le mec qui allait porter le coup n'était pas visible à l'écran. Avant de porter le coup, il arrivait dans le hors-champ. Et ça, c'était pour moi, une trouvaille de mise en scène qui avait été rarement vue avant. Et là, on dirait qu'ils n'ont pas assimilé tout, l'équipe de SPL, parce que, ok, on fait des clés de bras et des combats au sol, mais ça suffit pas, quoi. C'est correctement mis en scène, t'as un duel à un moment donné dans une ruelle entre la nouvelle un acteur qu'ils ont essayé de lancer, ça s'appelle Wong Jing. C'est un acteur qui est peut-être en blond, à un moment donné on le voit en filigrane sur la couverture, donc c'est le recto un peu en haut à gauche. Et alors il y a un duel super entre lui et Donnie Yen. Oui, pour ceux qui n'ont pas la couleur, ouais. Je dis ça pour voilà, pour mes voisins en face. Et voilà, donc c'est un duel dans la ruelle qui est assez correct, puisqu'il y en a un qui a une matraque, c'est le flic, et l'autre a un couteau, donc avec des chocs un peu réalistes, parce que d'habitude les films en Kong c'est toujours des trucs comme ça. Donc là, ils sont arrivés à un degré de réalisme qui n'était pas trop vu ces dernières années. Après, moi, mes goûts perso, c'est pas du tout ça. Moi, c'est des trucs sauvages, c'est filmé au grand angle. Là, c'est ils font à l'occidental, ils filment avec des longs zooms pour avoir du flou derrière et puis pour centrer sur le jeu de regard des acteurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement, alors que c'est des combats martiaux, quoi. T'attends d'avoir une putain d'histoire à la con avec des acteurs avec du flou derrière. Mais
Thomas,
quoi.
Thomas. Oui. Ça te fait pas la même chose quand tu regardes certains films de cul, toi ?
Je vois pas le rapport.
Quand ils mettent du scénario dedans.
Ouais, lui, il est pour l'action, c'est tout. Hein.
D'accord.
Donc, SPL, c'est quand même un film avec une certaine tenue. Techniquement, c'est irréprochable. Mais ça obéit à une espèce de logique des nouveaux films de Hong Kongais, avec Infernal Affairs, avec même les films de Johnny To, The Mission, etc. Tu abandonnes totalement la sauvagerie, la nervosité, et tu obtiens des films super léchés, et tu perds un peu ce qui avait fait la force du film des films Hong Kongais fin des années 80, début des années 90. Voilà.
Après, la tatane, la mandale et la grosse baffe.
Non, c'est juste que c'était des films super nerveux et que tu voyais les mecs, ça allait à 100 à l'heure et tu sortais là, t'étais lessivé. Là, t'es pas lessivé en sortant de ce film, tu dis ouais, c'était joli, voilà. Voilà. Et puis bon, les films, voilà, comme je disais, les scènes d'arts martiaux, elles sont un peu innovantes, mais ça suffit pas. Moi, franchement, c'est pas une foudre de guerre, ce film, j'étais assez déçu. Vu la promo qu'ils font autour de ça, j'ai pas fini de regarder les bonus. Les interviews, ils se la pètent un peu. Vous avez jamais vu ça avant, vous allez voir les combats, ça tue sa race! Non, voilà, non, pas du tout. Alors, SPL, c'était un film de Whitsun Ip avec Donnie Yen, Sammo Hung et Simon Yam. Vous pouvez toujours aller le voir, c'est honnête. On va enchaîner ? Non, tu laisses. Ouais, petite respiration.
Je mets un petit truc doux là, t'as vu ?
Ça tombe bien, le film qui suit. Non, il est pas doux du tout en fait. Donc je vais vous parler d'une collection qui est sortie en DVD, vous pouvez trouver partout dans les bonnes crèmeries. Ça s'appelle la catégorie 3 et c'est édité par les mecs qui sont derrière HK Vidéo, sauf que comme ils ont un certain standing avec des belles jaquettes en papier glacé, avec des belles iconographies, etc., ils se sont dit on va pas se compromettre avec cette catégorie 3, donc on va pas mettre HK dessus. Alors catégorie 3, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des films qui sont jugés beaucoup trop érotiques, violents ou transgressifs pour être montrés à tout public. C'est-à-dire que c'est l'équivalent à peu près entre interdit à moins 16 ou moins 18.
Stop, on va avoir des emmerdes, Thomas, là.
Non, mais ça reste du sonore quand même, on ne veut pas montrer les extraits. Alors, il y a quelques films qui sont sortis.
Fais attention à ce que tu dis.
Il y a quelques films qui sont sortis en catégorie 3, il y en a eu 5 ou 6. Je suis allé à mon magasin habituel et puis j'en ai pris un au hasard. J'ai évité certains titres évocateurs parce que j'avais pas envie de dégueuler devant le film genre Ebola Syndrome ou des titres très évocateurs comme ça.
Et oui, c'est clair que vu comment ils montrent en général, ils aiment bien montrer les choses de manière crue en con qu'on aurait vu une superbe chiasse.
Ah, mais là-bas, c'est pas des faux culs comme les Américains. Quand il y a un mec, tu sais qu'il va y passer et qu'il a un chien aux États-Unis, le chien il va survivre. Là, tu sais très bien qu'il va être étrippé. Dans les premiers films de Seuillard, je me souviens, dans L'Enfer des Armes, il y a un chat qui est empalé sur un grillage.
Ouais, ouais, ou dans The Blade aussi, hein, tout au début, là, tu sais, quand ils sont dans le.
Oui,
dans
avec le chien.
Tout, ouais, ouais. Voilà, quoi. Ou les chevaux, là, dans la forêt de bambou.
Voilà.
Bon, okay,
allez,
quoi.
Hop ouais, ouais. Et donc là, j'en ai pris un au hasard, et ça s'appelle Run and Kill, et c'est un film de Billy Tang, avec toujours Simon Yam, qui jouait flic un peu corrompu dans SPL.
Et ouais, on reconnaît quand même la patte HK sur la jaquette.
Sur l'iconographie, hein. Ouais, ouais, avec le revêtement.
Non, même tout, quoi. C'est la
oui,
mise
oui,
en clair, c'est flagrant.
Ouais. D'ailleurs, je...
ouais. C'est la. Pas l'iconographie, mais la mise en page que tu dis reconnaître. Ben non, d'abord, le packaging.
Ça, c'est pas le même éditeur, puisque j'ai oublié de le préciser. SPL, c'est sorti en DVD chez Asian Star, la collection de Jean-Pierre Donnet. D'ailleurs, il y a une présentation de Donnet juste avant le film. Alors que ça, c'est plutôt HK. C'est avec, il travaille à partir des négatifs originaux, avec un certain type de police et toujours un certain type de maquette. Toujours la même chose. Et c'est voilà. Et alors là, de quoi ça parle, Run and Kill, c'est le pitch, je l'ai écrit, c'est après avoir surpris sa femme en plein adultère, un homme assez gros d'ailleurs, part noyer son chagrin dans un bar. Ivre mort, il commandite sans s'en rendre compte l'assassinat de sa femme, et dans l'impossibilité de payer sa part du contrat, puisqu'entre temps il y a les tueurs qui sont venus égorger sa femme au couteau, le cocu demande à un gang qui squatte sa maison secondaire d'aller buter le parrain local. Mais l'un des membres du commando meurt durant l'opération, et c'est son frère aîné, ivre de rage, ne vit désormais plus que pour buter toute la famille du héros. Manque de chance, le héros, il a une mère et une petite fille de 6 ans.
Appelle ça un héros.
Alors,
c'est un loser complet, ce mec.
C'est un loser complet.
C'est une très bonne pub contre l'alcoolémie, ça.
Ouais. Oui.
C'est ce à quoi je pensais, justement.
Alors, en plus, quand on parle de catégorie 3, on peut, bon, alors, quand c'est érotique, tu sais qu'ils y vont à fond, et les caméras embarquées, j'en sais rien, je les ai pas vues, hein. Et par contre, les films gore, j'en ai eu un sous les yeux, effectivement, et là, ils y vont à fond aussi. Alors, quand tu sais du sport, je sais qu'il a maté pas mal de films hongkongais, de quoi sont capables certains films qui sont pas de catégorie 3, comme The Killer, ou The Big Hit, où tu vois des mecs rouler dessus par des voitures, et qui sont totalement écrabouillés sur des autoroutes, et elle te dit, qu'est-ce que tu vas avoir? Ben, la fillette et la mère, elles s'en sortent pas, en fait. Il faut voir comment elles meurent. Bon, voilà. On va juste te dire que c'est à base d'essence et de flammes. Bon.
Oh non!
Ah, ben, comme dans Big Hit au début.
Sauf que dans Big Hit, c'est un indique homosexuel. C'est pas la même chose. Non, là, dans Run and Kill, en fait.
Voilà, là, on a assassiné les valeurs contre-familiales, là, on a assassiné les valeurs familiales, bravo.
Alors, super. Tout à l'heure, je disais qu'on avait une perte de valeur dans le cinéma hongkongais, parce qu'on avait oublié toute la sauvagerie, et les caméras portées, les caméras à l'épaule et les grands angles. Et ben là, on les retrouve. Là, c'est un film de la grande époque. Donc ça, c'est vachement bien. Tu sors lessivé, même par la violence graphique du film, parce que ça viole, ça empale, ça hurle, ça transpire. Il y a plein de vengeance de partout. Faut dire aussi que les méchants, ils mettent du temps à crever, et puis il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc tu dis, non, il revient, c'est pas vrai. Donc voilà. Donc c'est un film très jouissif. C'est un film dans la grande tradition des films où tu es vachement fier de les posséder, parce qu'il faut savoir qu'ils sont pas très chers, 13 euros. C'est une belle jaquette.
Oui, je me souviens encore la fois où tu disais qu'il y avait des films que tu planquais en général derrière les armoires, tu sais, t'as une double.
Oui.
Ouais, pas ceux-là.
Eh ben si, parce que celui-là je vais les planquer même si.
Wow, ah, t'as peur que ton petit chat le regarde.
Non, qu'il le regarde pas, qu'il fasse pire. Et alors le principe, le seul défaut, c'est que les films de Takashi Miike, par exemple, c'est japonais et ça c'est hongkongais, donc tu peux pas les ranger à côté. Mais tu les ranges dans le même coin, en tout cas. Moi je sais que celui-là je vais les ranger à côté des films, la trilogie du chaos de Sayark avec l'enfer des armes, etc. Ça a une bonne place à côté. Et si vous voulez aller jeter du côté de la collection justement catégorie 3 parmi les autres films, il y a, donc je disais, Ebola Syndrome, il y a Red to Kill, Wrapped by an Angel. Alors c'est tout le temps soit des films érotiques, soit des trucs avec de la violence vachement gore. Vous pouvez toujours voir les extraits les images qu'ils ont placées au verso de la jaquette.
C'est assez choc, hein, quand même.
Ouais. C'est sobre par rapport à ce qu'il y a dans le film.
C'est les plus soft qu'ils ont pu trouver dans le film, c'est ça?
Oui, oui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux images, c'est extrait de la même scène à quelques secondes d'intervalle. Alors ça s'appelle Run and Kill et c'est un film de Billy Tang et c'est disponible en DVD chez Metropolitan Film Export dans la collection catégorie 3 et c'est l'équipe.
Interdit aux moins de 16 ans, merci.
Voilà, et c'est l'équipe de HK Vidéo qui est derrière, donc c'est toujours un signe de qualité.
D'accord, merci Thomas.
Et je rappelle d'ailleurs que Thomas, puisqu'il a ouvert son blog, qui est thomasbertelon.com, lequel il y a toutes les chroniques cinéma qu'il a fait.
Oui, elles sont disponibles sur le site de l'émission et sur le mien. Donc,
ouais, c'est, des fois c'est un petit peu repris, donc c'est pas exactement ce qu'il fait, donc ce qu'il a dit à l'antenne. Donc il y a des choses en plus, des choses en moins. C'est à vous de découvrir, de faire le choix.
Et il y a des images.
Oui.
Ouais, sur le mien, pochettes. Oui. T'as pas encore compris la syntaxe de DotClear, mais enfin c'est du XHTML valide et tout ça, c'est tellement simple. On s'en fiche, voilà du sport. Non, du sport, il est en train de s'allumer une clope et tout, tranquille.
Bah, il faut pas le dire à l'antenne, ça.
Ah, bah oui, excuse-moi, c'est interdit. Ouais, c'est interdit.
Oh, chacun sa peine de mort. Hein.
Exactement, ouais.
Ah oui, d'accord, ok, puisque c'est comme ça, on va appeler le commissaire et puis voilà. On va utiliser une autre intro pour notre cher ami du sport et puis Zou. Quand tu veux, monsieur. Ouais, lecteur CD, c'est génial. Hein.
Non, mais elle est très bien cette intro finalement.
Ouais, mais je pense que celle-ci. Avec l'inspecteur du sport, les 5 dernières minutes.
Avec le timing en plus, hein, il est moins 5 là, tu vois. Alors vite fait, le Man Movie de ce mois-ci est sorti, voilà, hein, avec les rubriques habituelles, c'est-à-dire la critique des films intéressants et au niveau des recherches un peu plus fouillées, il y a un truc excellent. Juste après la rubrique, la critique du film La Nonne qui va sortir, spécial. Les films de Nonne, elle est très bonne. Et là, ils en parlent très très bien. Hein. C'est de ce film qui est absolument fabuleux, dont je vous ai pas parlé. Il est passé la semaine dernière à la télé.
Lequel? Viens voir ce qu'il y a j'ai sous la jupe.
Hein. Non, Les Diables de Ken Russell. C'est quand Ken Russell, il faisait des films vachement bien, excellents. Hein. Et là, Les Diables de Ken Russell, alors là, si vous avez jamais vu ça, c'est Oliver Reed, il est magnifique. Enfin bon, c'est excellent. Hein. C'est vraiment très très bon. Et pas mal d'autres films. Ensuite, il y a également le dossier le plus intéressant, c'est un dossier qui est consacré au direct to vidéo, c'est-à-dire les films qui sont tournés mais enfin ils sortent pas parce que bon bah les mecs les producteurs ils se sont dit oh, non c'est pas possible, on va se planter avec ce truc et
tous les Vandamme récents.
Ouais
les Vandamme, non tais-toi parce qu'on a une photo de toi avec lui.
Et il y en a un qui est programmé, il y en a un qui fait partie de cette liste hein, non exhaustive hein, parce qu'ils disent que s'il y en a tellement qu'ils auraient pu faire un Man Movie spécial rien que sur les direct to video, ce qu'ils vont peut-être faire d'ailleurs.
Ouais.
Ah, on retrouve In Hell, donc, de Ringo Lam.
Avec Van Damme.
Avec Van Damme, hein, bien sûr, hein. Sinon, voilà. Il y a également, Chronos de Guillermo del Toro. Bah ouais,
oui,
hein.
Voilà.
Ouais. Ni Dieu ni Démon, c'est Gods and Monsters, le film de Bill Condon, la vie de Frank Welles, là, le réalisateur des premiers Frankenstein et de ses amitiés homosexuelles dans lequel Brendan Fraser, il a un super rôle, hein. Il y a également, je parle surtout des films que je connais un petit peu. À Bang Rajan également, hein, le Thaïlandais là, vraiment carton, mais qui n'est pas sorti chez nous. Hein, on lui a préféré justement Ong Bak. C'est peut-être une grosse erreur d'ailleurs à mon avis. Killer Clown from Outer Space, ça c'est un film culte de chez culte. Je sais
attends,
même pas
tu veux dire c'est des moules tueuses de l'espace.
Non, Killer Clowns, les
ah les nuages, ok.
Non,
j'ai entendu clown.
Clowns.
Ah les clowns.
Les clowns. Clowns. Les clowns.
Ouais, je préfère le maquillage de ça.
Il y a également un film de Nick Rugg, Eureka, hein, qui est pas sorti. Nick Rugg qui avait réalisé L'homme qui venait d'ailleurs hein, avec David Bowie. Oui. Alors ça, c'est un film que j'ai cherché, que j'ai jamais trouvé. Enfin si, bon, je me donne pas la peine, mais enfin bon, si sur le net tu dois le trouver, quoi. Mais enfin bon, même quand j'étais en Espagne, je l'ai pas trouvé, quoi. Enfin, j'ai pas trop cherché. C'est le film de Alex de la Iglesia qui s'appelle Perdita Durango.
Mais je l'ai vu, moi.
Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux, quoi.
Je l'ai vu en VO en plus.
Ouais. Bah, de toute façon, à mon avis, en version. Ouais, non, mais en version française, il doit pas exister, tu vois. Déjà, hein, ça va être impossible à trouver.
Il est excellent ce film. Il y a un couple avec Javier Bardem et donc l'actrice qui joue Perdita Durango qui se mettent à violer un couple de adolescents qu'ils ont pris pour leur enseigner qu'il faut quand même qu'ils baisent. Puis à la fin du film, ils baisent, mais avant, ils les violent.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et Perdita Durango, qui est d'ailleurs tiré d'un bouquin de Barry Gifford qui avait fait toute une série, il en avait fait 3 ou 4 comme ça sur le même thème, et dont un qui est vachement connu, qui a été pris en Cannes, c'est Sailor et Lula.
Et il avait fait aussi Lost Highway, co-scénarisé avec Lynch.
Ouais, mais c'est pas tiré du bouquin, quoi.
Ah,
pas tiré d'un de ses bouquins sortis, quoi. Et voilà, il y a également Fort Fairlane, alors ça c'est une tuerie ce truc, de Rennie Harlin quand même, quoi, tu vois. avec Andrew Dice Clay dans le rôle d'un détective de choc et tout quoi. Alors c'est un petit peu Ace Ventura, tu vois quoi, mais seulement ça part dans tous les sens quoi, tu vois. Et c'est le truc mais délirant, il y a un panda qui te retrouve pendu, enfin bon, des trucs, un koala qui te retrouve pendu, enfin bon, et lui il est détective et tout, enfin bon, c'est excellent, vraiment excellent. Il y a également Rétroaction, le film avec James Belushi de Louis Morneau, donc je te disais avant Inel de Ringo Lam, et plein de pas mal d'autres films. Donc il y a Street Trash aussi quoi, bon ah ok, qui est jamais sorti quoi en salle.
Hein, je connais pas.
Hein?
Je connais pas.
Ah, Street Trash. Ah là 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 là.
Bon, attention, parce que derrière quand même, on a Kinou qui est en train de tirer un gros sourire.
Tant pis pour toi.
Vas-y.
Quand même.
Ouais. Street Trash, c'est l'histoire de Bibine qui est un mec qui balance de la Bibine, de l'alcool frelaté quoi, qui fait crever tous les clodos, tu vois. Alors dans des trucs vraiment trash quoi, tu vois. Ah, c'est vraiment très très trash quoi.
Scénariste à la fin, ça se termine quand même avec des missiles en fait.
C'est n'importe quoi, mais c'est excellent. Vraiment très bon. Enfin bon, voilà, plein de
scènes où un clodo va au chiotte et tire la chasse, et en fait
c'est liquéfie, tu vois. Alors
il n'y a plus que la main qui est attachée à la chaîne. Magnifique.
Ouais, c'est voilà quoi. C'est des trucs comme ça. Enfin bon, voilà quoi. Donc il pourrait en faire un numéro spécial parce qu'il y en a plein d'autres, hein, de toute façon. Voilà, bon, c'est les deux trucs vraiment excellents dans ce numéro de Mad Movie, hein, sinon les trucs habituels, hein, y a pas de problème. Et dans l'article consacré à la série télé, c'est The Closer, enquête prioritaire. Et Martin Winkler, il arrive à trouver vachement de trucs vachement bien dans cette série quoi, tu vois.
Mais moi je trouve trouve qu'elle est très bien faite, cette série, ne serait-ce que par le fond musical jazzy à mort, je veux dire.
C'est pas tellement jazzy, tu vois, hein.
Oui, mais c'est un truc qui est très calme, très lent, et qui donne vraiment une continuité à la série. C'est très agréable.
C'est-à-dire que c'est une série qui est très bien écrite parce qu'il y a que 12 épisodes par année, hein, donc les mecs ils se laissent ils se laissent le temps quand même de bien écrire. Et en plus, il y a toujours, hein, j'en parlais quand j'ai présenté la série, toujours des gimmicks, hein, qui sont incessants, qui reviennent. Hein, l'opposition de la nana contre les mecs, par exemple Anthony Dawson qui en peut plus,
qu'elle se pomme à Los Angeles en voiture.
Le chef adjoint Black qui la aime, et vraiment c'est la haine, hein, parce que c'est lui qui devrait être à sa place. Enfin bon, plein de trucs. Elle qui se paume parce qu'elle arrive à Los Angeles, elle vient d'Atlanta ou de Chicago, donc en bagnole, elle à la maison, elle a plein de soucis domestiques, des trucs comme ça. C'est plein de gimmicks qui reviennent, qui font que la série est assez intéressante. Sinon, au niveau du police procédural classique, hein, le Wood Unit, hein, c'est-à-dire un crime, ensuite on est sur la scène du crime, et ça se termine toujours pratiquement avec le mec qui avoue dans l'espèce de cube, c'est-à-dire la salle d'interrogatoire. Enfin bon, bref, ça change pas beaucoup, mais bon, c'est quand même bien plaisant, hein, y a pas de problème. On change radicalement de sujet quand même avec je vous avais promis un petit truc sur la peine de mort et sur la chaise électrique, parce que dans Prison Break quand même, t'as vu dans le premier épisode, ça y est, il passe sur la chaise électrique, il l'emmène et tout, puis alors t'as toujours cette espèce de climax qui veut que on va attendre jusqu'au dernier moment. Alors bon, gros plan sur le téléphone, va-t-il sonner ce putain de téléphone, merde, qu'est-ce qu'il fout, et en fait il sonne pas, et puis t'as Stacy Keach qui arrive et tout, oui, le gouverneur a rejeté votre clémence, il faut y aller et tout, puis alors là tu le vois, il le fout sur la chaise, il l'installe, il lui fout les électrodes et tout, et puis bon, c'est une technique, il faut que ce soit humide pour que ça passe mieux, donc il fout une éponge, tu sais, entre les trucs, alors quand il se serre les sangles et tout, t'as l'éponge qui est compressée, donc ça lui dégouline sur la gueule et tout, quoi. Enfin bon, la scène vraiment bien foutue quoi, tu vois, tranquille, et il a la vitre en face de lui où il y a tout le public, hein, c'est-à-dire les gens qui sont autorisés à assister à l'exécution.
Il y a les avocats, la famille de les victimes. Et...
voilà, et les journalistes, et puis il est là, et puis il voit une tête comme ça, quoi, vraiment en fond et tout, et il dit papa.
Et ça finit comme ça.
Et c'est mort de rire. Non, parce que bon, après c'est au milieu de l'épisode, quoi, et puis bon, après tu comprends, ok, quoi. Et moi je me dis, bah, putain, c'est Anthony Donison, merde, qu'est-ce qu'il fout dans cette série, alors qu'il est dans LA en quête prioritaire, quoi, tu vois, et que c'est quand même Ray Luca, merde, quoi, tu vois, quoi, c'est Ray Luca, hein, crime story, quoi, hein, ok. Et bon, tu devines après, bon, quel est son rôle, parce qu'il commence à avoir un petit rôle, alors que bon, en fait, le père des deux, hein, Lincoln Burrows et Michael Scofield, il s'est tiré quand ils étaient tout gamins, quoi. Donc ok, ils n'ont pas vraiment connu leur père, là. Si, quand ils étaient tout gamins, enfin bon, ils l'emmenaient il l'emmenait, Lincoln Burrows, voir les matchs de baseball et tout, quoi. Et ça va lui donner un petit indice, bien sûr. Ah, 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 parce que bon, bah, il faut tenir le public en haleine. Alors, ça, c'était dans l'épisode The Rat. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, le numéro 16 et le numéro 17. Alors, le numéro 16, bon, peut-être dispensable, mais enfin, qui va peut-être nous apprendre des choses, parce que ça va surtout être un flashback 3 ans auparavant, et la vie des différents intervenants principaux, hein, savoir les deux frangins, Véronica, l'ex-petite amie de Lincoln Burrows, et qui est l'avocate qui essaye de le faire sortir.
Ah oui, c'est pour ça que les retrouvailles sont très tactiles, en fait.
Ah oui, oui, bien
d'accord.
Sûr.
Bah
oui,
bah oui. Parce que j'ai loupé le début, en fait.
Ouais.
Mais bon, pas.
Justement, parce que au début, elle sort avec un avocat d'affaires, quoi. Parce que lui, il s'est marié avec une autre nana, la blonde, qui se fait dégommer, quoi. Hein, qui cherchait le fils, ils ont trouvé la mère et le beau-père. Enfin bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, Kellerman, dès qu'il voit quelqu'un qui gêne, hop, boum, à dégager, quoi. Hein, de toute façon, quoi. Et par contre, dans l'épisode numéro 17, c'est-à-dire le deuxième de jeudi prochain, hein, à Fox River, Michael ne parvient pas à se souvenir de la partie du plan qui a été brûlée. Il s'est cramé, quoi. Au moment, il se planque et tout, parce que il est dans la cave de l'aile psychiatrique de la prison, et il y a un autre, il est déguisé en gardien, et il y a un gardien qui descend pour picoler un petit coup. Et donc, il est obligé de se planquer, et il se colle à un tuyau qui est en fait un tuyau d'eau chaude, et donc il se crame le dos. Tu vois, et pour pas crier et tout, quoi, il se mord la main et tout, quoi. Et puis bon, quand il rentre en cellule, en fait, ça a tellement cramé que bon, bah, le costume, enfin la chemise de gardien qu'il a piqué, elle reste collée à la plaie, quoi, tu vois. Donc, et ça va avoir son importance d'ailleurs. Alors bon, bah Michael, quoi, il s'énerve, et puis hop, il va se faire balancer en cellule d'isolement, quoi. Donc il devient hyper agressif, et de ce fait, il va se faire transférer où? Dans le bâtiment psychiatrique, parce que bon, bah comme ils voulaient, ils avaient un plan pour sortir mec qui avait le gros tuyau, quoi, qui avait été remplacé. Ils se font niquer la tête, donc ils sont obligés d'imaginer un autre plan, et l'autre issue de sortie, quoi, possible, hein, parce que bon, bah comme il a tatoué le plan entier de toutes les canalisations depuis la construction de la prison, hein, alors on t'explique qu'au départ c'était des tuyaux en plomb, ensuite comme le plomb c'était vachement toxique, la tuyauterie ils l'ont faite en cuivre, et puis ensuite comme le cuivre ça coûte vachement cher quand même, parce que c'est chinois, maintenant ils nous achètent tout le cuivre, alors c'est monté en flèche, ça a quadruplé le prix, hein, et ben maintenant ils font tout en plastoc, quoi, les tuyaux maintenant c'est en plastoc. Donc, et lui il a les plans, bah, de toutes les canalisations depuis le début, donc c'est pour ça que le tatouage, pour comprendre, bonjour, quoi, faut être hyper fort, quoi. Et donc lui il se fait transférer à l'HP, quoi. Et de l'autre côté, LJ, le fils, donc de LJ Junior, donc il retrouve la trace de Kellerman pour venger sa mère. Mais Kellerman, il va lui niquer la tête, il va le faire arrêter par les flics et le faire accuser du meurtre de sa mère. Tout ça donc dans les épisodes de Prison Break la semaine prochaine sur M6. Alors, quand j'ai vu cet épisode avec la chaise électrique, je me suis dit ouais, il faut quand même que je vous fasse un petit topo sur la chaise électrique, hein, ça vaut quand même le coup. Ah, il faut savoir qu'au départ, bah, la chaise électrique est intimement liée au progrès de l'électricité, hein, et au fait que l'électricité était naissante, hein, aux États-Unis vers la fin du 19e siècle, en
c'était
fait.
C'était même d'ailleurs
chez Edison.
Oui, c'est Edison, et en fait, c'était pour discréditer le courant alternatif,
voilà,
puisque
c'est
lui.
Ça.
Du sport, allez, on parlait. Excuse-moi.
Voilà, c'est ça. Le premier système générateur, c'est en 1882 à New York, hein, et en 1890, bah ça y est, on commence à peu près à exécuter les gens. En 1882, Thomas Edison, l'acheteur de brevets de l'ampoule électrique, du phonographe, enfin c'était le truc à cylindre, hein, c'était pas le truc avec les galettes de cire, hein, c'est un autre qui a inventé ça, quoi, un mec qui s'appelle Victor, le premier quartier commercial, quoi, donc commence à illuminer la ville de New York en 82. En 86, George Westinghouse, inventeur du frein à air comprimé, il fonde sa compagnie d'électricité. Et en fait, le fait est que Edison, lui, se basait sur le courant continu, hein, DC, et George Westinghouse, lui, c'était le courant alternatif, hein, donc AC, Et il commence à se battre pour savoir qui c'est qui va remporter le marché, parce que bon, c'est quand même un marché en plein développement qui valait le coup. Et donc il commence à se battre. Et donc, comme disait Xavier, eh bien Edison va essayer de démontrer que le courant alternatif est vachement plus dangereux que le courant continu pour les gens. Et donc il va mandater un type qui s'appelle Harold Brown, qui va montrer à travers différentes expériences publiques que le courant alternatif c'est vachement dangereux. Et donc ils vont prendre des animaux comme ça, quoi, ils vont les montrer, ils vont les électrocuter devant les gens, devant le public, pour dire attention, regardez, vous voyez, à partir de 300 volts en alternatif c'est bon, tu crèves, laisse tomber, donc il vaut mieux le courant continu, hein, c'est vachement mieux, quoi, tu vois, parce que ouais, les prises de terre et tout, enfin bon, tout le bordel, enfin bon, les trucs de base, quoi. À la fin, il se passe que Edison, en même temps, quoi, qui était quand même un abolitionniste au niveau de la peine de mort convaincu, hein, en même temps, c'était à la même époque, remarque qu'il y avait pas mal d'exécutions qui se passaient vraiment très très mal. À l'époque, c'était la pendaison, hein, donc bon bah c'était un petit peu glauque. Les mecs, des fois, ils crevaient pas immédiatement, parce que bon, une bonne pendaison, c'est quand on brise le cou du mec, donc il crève pratiquement immédiatement.
Tout de suite, ouais.
Mais bon, ça dépend de la tension de la corde, ça dépend du poids, l'inertie, enfin, plein de choses qui sont calculées. Tu vois, quand les Anglais sont très forts dans cette matière-là.
Ouais, les Italiens, donc, ils préfèrent mettre un tireur en busque.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui les gênait, quoi, c'est que bon bah il y avait pas mal de mecs qui restaient pendus et ils étaient encore conscients, tu vois, que 20 minutes après et tout, quoi. Bon, ça la foutait vraiment mal. Et parce que il y avait quand même cette idée qu'il fallait que la sentence de mort, hein, c'est l'exécution, se passe pratiquement entre guillemets sans douleur, quoi, hein. C'est-à-dire que bon bah OK, ce type a tué, on le tue, mais c'est pas pour une c'est pas une raison pour être encore plus trash que lui, quoi.
On n'est pas des sauvages, quoi.
On n'est pas les sauvages, quoi. OK. Alors Edison, il se dit bon bah OK, on va utiliser un moyen plus sûr, l'électricité, quoi, mais on va employer le courant alternatif de Westinghouse pour que ça marche mieux, quoi, de toute façon, quoi. Alors donc Harold Brown, il reprend le pote Edison toute une série d'expériences sur les animaux dans les laboratoires, et il conclut que les exécutions doivent se faire avec du courant de 300 volts durant 15 secondes. Alors le premier criminel à être choisi s'appelait Francis Kemmler, hein, il a été condamné à mort pour assassinat à coup de hache, hein, donc Westinghouse, qui est concurrent, donc lui paye des avocats pour essayer de défendre, pour pas qu'il soit condamné à la mort. Ah ouais, mais ça allait bien fort et tout, quoi. Et donc, le 6 avril 90, Kemmler est introduit dans la chambre d'exécution de la prison d'Auburn. Alors, le directeur, il dit au directeur, prenez votre temps et faites-le bien. Il dit le maire. Tu vois, quoi. Alors bon, on attache le condamné à la chaise au moyen d'un dispositif rudimentaire. On lui couvre le dessus de la tête d'un casque métallique en forme de cuvette. Sur le casque, on lui fixe l'électrode. Sous l'impact, Kemmler fut saisi de violents soubresauts et la chaise, malgré son poids, commença à tanguer dangereusement et faillit même se renverser. Kemmler était toujours vivant. Alors, on lui envoya une seconde décharge. Le corps du supplicié devient rouge vif. Sa chair commença à brûler, dégageant une forte odeur et une fumée âcre qui enveloppa la tribune des témoins. Au bout de 3 minutes, on coupa le courant. Horreur, l'homme semblait encore vivant. On remit le courant. Ce qui eut pour effet de faire monter et descendre une petite flamme bleue le long de son dos. Enfin, il mourut pour du bon. À l'autopsie, on constata que sa cervelle ressemblait à un morceau de cake brûlé et que le sang de sa tête était coagulé en un charbon noir et que son dos était totalement carbonisé. Les deux médecins officiels déclarèrent que le condamné n'avait pas souffert.
Alors, ils ont l'humour, hein, pour ça. Oui.
Alors par la suite, bon bah ils ont rectifié un petit peu le tir pour arriver à des solutions un petit peu moins trash quand même, quoi. Et ils sont arrivés à la solution qu'il fallait. À partir de 1903, hein, qui était facile de tuer un homme par électrocution, en lui lançant à travers le corps un courant de haute tension de 10 000 ou de 20 000 volts et de 50 ou de 100 ampères. Mais le cadavre resterait donc normal, quoi, si tu veux, quoi. Pas trop cramé, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Alors, l'électrocution, donc, elle se passe de la manière suivante. Alors, donc, il y a plusieurs cycles, en fait, hein. Le cycle qui est choisi maintenant, c'est de 1900 à 2500 volts, hein, selon les modèles de chaises et selon les états. Alors il y a des cycles de 2 minutes qui se décomposent en 8 mini-séquences alternatives de 5 et de 25 secondes. L'ampèremètre aussi de 5 à 15. Et lorsque le courant est branché, le supplicié fait ordinairement un bond en avant qui le projetterait à plusieurs mètres s'il n'était pas solidement sanglé à sa chaise. Selon de nombreux témoignages oculaires, au premier cycle, le condamné qui perd conscience perd également tout contrôle musculaire, dont celui de la vessie. Bon, ça on l'a déjà vu dans les films en plus, hein. il urine et le défait, qu'il n'est pas rare qu'il vomisse du sang et qu'il se morde profondément la langue. Au deuxième cycle, des bulles de sang sortent de son nez. Du troisième au cinquième cycle, le corps est porté à de 37 à plus de 100 degrés. Il prend une couleur violacée, la fibrillation et la paralysie respiratoire deviennent presque complètes. Au septième et huitième cycle, le système d'oxygénation du cerveau est carbonisé et souvent les yeux sont complètement sortis de leur orbite. Le sommet du crâne est noir avec un cercle de chair rose vif. Voilà.
Vous êtes je retire ce que j'ai dit. Vous du sport content. A été largement plus trash que toi.
Bon appétit.
Je te l'avais dit au téléphone. Et encore, c'est tout ce que j'ai. Je viens de lire est tiré de cet excellent bouquin qui s'appelle Peine de mort au pluriel. Histoire et technique des exécutions capitales de Martin Monestier qui lui il a écrit plein de trucs quoi, il a écrit trucs sur les monstres, il a écrit un bouquin sur les nains, il a écrit également des biographies, la biographie de Travolta, de Macias, de Brassens et de Brel, enfin bon un petit peu touche à tout, il a écrit plus récemment une anthologie de la merde aussi quoi, enfin bon plein de trucs comme ça, donc dans ce bouquin qui est paru quand même il y a une bonne dizaine d'années
hein. T'étais prévenu hein, Pierre-Yves, t'es pas à Radio France. Hein.
Et si j'avais su, j'aurais insisté sur ce qui arrive à la dépouille de la fillette cramée à l'essence.
Non, s'il vous plaît.
Ouais, non, mais attends, parce que bon, si tu, quand tu lis ce bouquin, l'électrocution, donc la chaise électrique, c'est tout à la fin. Mais avant, t'as des trucs, tu le crois pas, hein, la pendaison, la noyade, la lapidation. Mais alors, attends, quand tu vas au début, le rôtissage et la grillade. Le pal, l'écrasement, le déchiquetage, le dépeçage, la roue, bien sûr, plein de choses comme ça, l'écorchage aussi.
L'écartèlement.
L'écartèlement, bien sûr.
Comment s'appelle le supplice chinois aussi? Leaping, c'est ça, où il le découpe petit à petit, le supplicié.
C'est
magnifique.
C'est une variante hein, du déchiquetage, je pense, quoi. Enfin bon, il y a plein de petites choses comme ça. Hein, le crucifiement aussi, hein, crucifixion, hein, de toute façon. Hein, l'emmurement aussi, hein, la précipitation, hein, quand ils balançaient les mecs des murs, tout simplement, quoi. La lapidation, enfin tout ça, quoi. C'est bien documenté de toute façon et abondamment illustré.
Je dirais, voilà. Je suis bien content d'être dans un pays où on ne pratique plus la peine de mort.
Bon, vite fait, on va vous faire la télé quand même.
Il y a aussi la congélation carbonique pour Yann Solo.
Ouais, bon,
ça, ah, mais c'est pas une condamnation à mort. Hein.
Non. Bon, vite fait la télé avec des nouvelles chaînes. Hein, on en parlait il y a 3 semaines, 4 semaines. Ça y est, elles y sont. Mardi 17 octobre à 17h. Ça s'appelle Jet, parce que bon, t'avais dit Play One, ils pourront pas le faire parce que c'est une marque déposée, t'as raison.
Oui, et puis Jet aussi, c'est parce que c'est une boîte avec laquelle TF1 est associé pour ça.
Bah c'est TF1, hein, de toute façon, quoi. Et donc, Jet qui veut dire jeu et télévision, hein, avec rediffusion des Real TV Show.
Il y a des mecs qui font le même boulot que moi.
Tout ça, machin, truc bidule. Mais également toutes les vieilles émissions cultes, Anagram, l'Académie des Neufs, tous ces petits trucs-là et tout, quoi, qui sont rigolo. Au niveau des sports, alors je sais pas si y a des gens qui sont spécialisés dans les chaînes sportives ou qui regardaient les chaînes sportives, en particulier le basket avec la chaîne NBA+, qui n'existe plus. Elle n'avait pas suffisamment de public, donc elle n'existe plus. Mais par contre, on a rattaché une partie des programmes de NBA+, c'est-à-dire les championnats, le championnat NBA de basket américain, qui est diffusé par Sport Plus, mais à partir de minuit certains soirs, donc on peut regarder des matchs de basket de NBA. Par contre, il y a une nouvelle chaîne consacrée au sport US qui s'appelle NASN pour North American Sports Network, yes, qui diffuse donc les championnats de universitaire de foot en salle, le championnat de NFL, ça c'est le
foot américain
mais en extérieur, il y a également le hockey sur glace et il y a également le baseball, la MLB Major League Baseball, the ball game quoi, hein, c'est-à-dire voilà, hein, le sport
quand il y a pas
un.
Quand il y a pas grève des joueurs.
Voilà. Il y a pas. On en avait parlé également du côté de chez vous. Alors ça c'est sur Canal Sat sur le canal 51, la chaîne conjointe de TF1 et Le Roi Merlin.
Alors on va avoir des emmerdes non seulement pour ce que l'on a dit tout à l'heure d'une manière plutôt violente, mais en plus là pour publicité dissimulée quoi.
Non parce que on touche rien quoi. Le Roi Merlin. Il y a également une chaîne plus régional, mais qui est diffusé maintenant à un niveau national, qui s'appelle Alegria TV, qui parle du Sud-Ouest, avec également des
c'est
trucs...
chez moi.
Ouais, des trucs qui devraient être interdits, mais enfin bon, tu les vois quand même, quoi. C'est bien trash, hein, la corrida, quoi. Je suis désolé, quoi. Mais enfin bon, on verra des corridas, du rugby, de la pelote basque, de la course landaise, et du cassoulet sur Canal Sat 146.
Le cassoulet, c'est vachement trash, ouais.
Enfin non, des émissions culinaires, enfin bon, à...
Ouais. Méfie-toi, hein.
Régional, quoi.
C'est
okay.
Du sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
Alors, vite fait, dans la semaine, ce qui est regardable, la... Excusez-moi. La rediffusion ce soir sur 13e rue de cette excellente série française, mini-série, on va dire, hein, puisqu'il y avait deux épisodes, deux téléfilms, à cran. La première partie, donc, de 2003, les deux téléfilms d'Alain Tasma avec Daniel Russo, Jérôme Angé, Didier Bezas, hein, c'est ce soir 20h45 pour le 1, 22h45 pour le 2. Les deux à la suite, c'est pas mal, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, c'est vraiment très bien. Les Français savent faire des bons trucs, des excellents trucs. Donc, ça vaut le coup, regardez ça, c'est bien, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Sinon, ce soir, dans New York, unité spéciale sur TF1, 23h10, après les 40 plus grands connards de l'histoire, je sais pas quoi, sur TF1. La saison 7 avec, deux épisodes donc et alors là bon Elliot Stapler il pète de plus en plus les plombs hein, Christopher Meloni hein, samedi dernier déjà au début de l'enquête carrément il dit t'as Dan Florek qui dit non toi tu rentres chez toi parce qu'il commence à engueuler une jeune nana une fille mère qui a balancé son bébé et tout dans la poubelle et tout quoi après il se rend compte qu'elle l'a eu avec son père et puis que elle en a balancé d'autres et tout. Puis Stabler,
bon, il y en a qui conservent les bébés au congélo et qui arrivent à les faire déplacer d'appartement.
Ouais, non, mais comme quoi la réalité et la fiction, tu vois, hein, franchement, c'est pour ça que c'est une série qui est excellente, hein, parce que bon, bah, généralement, les scénaristes des New York, unité spéciale, New York section criminelle, se nourrissent des faits divers, hein, qu'ils lisent un petit peu partout dans le monde et tout. Alors, j'ai lu que pour certains épisodes d'unité spéciale ou de section criminelle, René Balser, bah, il lisait carrément le nouveau détective, tu sais, le truc français, quoi. Pour choper de l'inspiration et tout, parce que comme il est canadien, donc il a les deux langues, donc il peut lire en français, en anglais, quoi.
Il n'a pas dû être déçu.
Alors, ce soir, le premier épisode, Vie secrète, avec Rebecca de Mornay, alors qui a fait tourner en bourrique Robert Goren, l'inspecteur Goren dans New York section criminelle, qu'il a jamais pu la choper, hein, tu vois, elle apparaît dans 3 épisodes, pas à la suite, mais bon, elle revient de temps en temps comme ça, et puis chaque fois, il arrive pas à la niquer, c'est la seule nana, je crois que c'est la seule qui arrive à se sortir des griffes de Goren, et pourtant, Goren, c'est quand même Sherlock Holmes, quoi, tu vois. Alors bon, et là, eh ben, elle va faire chier Mariska Hargitay et Chris Meloni, mais enfin, Chris Meloni, comme il est remonté, je t'explique pas, quoi, comme il va lui mettre une tête, quoi. Et le deuxième épisode s'appelle La Bague au Doigt, donc ce soir, à 23h10, dans une unité spéciale. Demain, dans FBI porté disparu saison 4 le premier épisode de l'autre côté avec comme guest Matt Craven qu'on a vu dans Assault on Precinct 13 de notre ami français Richet.
Ah non.
C'est ça, non
ben, c'est le remake tu veux dire
le remake oui
ah
oui,
oui, donc,
oui,
oui, oui. Ouais.
Ok Assault sur Central 13 ouais. Également dans d'autres séries, mais j'ai déjà oublié, dans IR également, on le voit dans d'autres séries. Et Laurie Metcalf, qui joue le rôle de sa femme dans cet épisode de Portée disparue, Laurie Metcalf, qui est en fait la sœur de Roseanne dans la série Roseanne. C'est demain soir à 20h50 sur France 2. Et le deuxième épisode avec William Russ comme invité principal. William Russ, c'est celui qui dit petite tête à Ken Wall dans Wise Guy. Dans un flic dans la mafia, tu sais, le rouquin qui dit tout alors petite tête, ben c'est William Russ. Là, il a pris des kilos et bon, hein, c'est plus la même chose, quoi. Mais bon, ça reste William Russ quand même, merde, quoi. Sinon, l'excellente chose sur Canal Jimmy, c'est la rediffusion. Et là, ils vont nous rediffuser la série en intégralité, c'est-à-dire pas que la première saison, mais les 4 saisons à la suite. Là, on recommence par la première saison, donc déjà vu sur Canal Jimmy. Mais c'est une série qui est absolument magnifique, qui s'appelle The Wire sur Écoute. Ma femme n'aime pas, mais moi j'adore, quoi. Mais c'est pas une raison. Donc allez-y, franco. Hein, c'est demain soir à partir de 22h20 sur Canal Jimmy. Sinon, du côté du cinéma, une petite perle quand même, quoi, avec Dean Martin. C'est la série des Matt Helm. Je vous avais,
Tu sais que je l'ai regardé. J'ai regardé le premier épisode.
Je l'ai droppé celui de jeudi de mardi dernier.
Et
je crois.
Franchement, tout d'un coup, je me suis dit, mais ça vient de là tous les Austin Powers.
Ben oui.
Et c'est
ben
le
oui.
même soir ben à 2h du matin sur Arte que j'ai compris d'où ça venait la production de ce film.
Ben
et en fait, il faisait partie du Rat Pack de.
Ben bien sûr, Dean Martin. Voilà. D'ailleurs, Dino, hein. Dean Martin, donc.
Ah oui, oui, ouais, Dino, oui.
Matt Helm.
Oui, pardon, j'ai toujours pas lu. Excuse-moi.
Alors, Traqué, donc, c'est mardi prochain à 20h45 sur Cinépolar avec Senta Berger, hein, dans le rôle de la poupée magnifique qu'il emmène dans sa super voiture et tout, quoi, avec tout, hein, siège couchant, toute la, donc, sur Cinépolar mardi prochain. Sinon, mercredi, c'est sur M6, c'est le téléfilm. Hein, mercredi, depuis le début de la rentrée, sur M6, on teste et on regarde s'il y a une bonne audience, on va garder, on va développer, mais s'il y a pas de bonne audience, on laisse tomber, à dégager, hein. On a vu ça avec Legitimus mercredi dernier. Ce mercredi sur M6 à 20h50, c'est Anna Meyer, assistante de choc, elle est assistante commissaire. Je connaissais pas ce boulot, hein. Moi, à mon avis, c'est, bon, t'es commissaire, t'es lieutenant. Enfin, maintenant, en plus, il s'appelle capitaine, lieutenant, comme dans l'armée. Là, c'est assistante. Bon, bah, ok. Et c'est joué par Marie Fugain. Et, celui qui a foutu un coup de salaud au hip-hop français, c'est Tommy Bugsy. Patrick Valota, Léo Collin, et Marie Riva. Tout ça sur M6, mercredi prochain à 20h50.
On a une spéciale dédicace pour Mathieu de la part de Chim Chim. C'est le film Mort d'un commis voyageur qu'on ne peut pas passer là puisqu'on l'a pas dans le magnétoscope. C'est sympa.
The Shield saison 4, c'était sur Canal+, depuis le début de l'année, et c'est rediffusé bien sûr sur Canal Jimmy à partir de jeudi prochain à 20h45. Ça va être très dur, hein, jeudi prochain. Hein. The Shield, Prison Break. Enfin bon, je t'en parle pas, quoi.
Ça, c'est le vendredi matin qui va être dur.
Ça va être l'horreur.
Non, le vendredi matin, ça passe encore.
Ouais, non, c'est pas grave. Alors, le vendredi soir, on fera spécial fumette, quoi. Avec, sur Ciné Comédie, Cheech and Chong avec, je sais pas pourquoi, ils commencent par le dernier, c'est-à-dire le troisième, et ensuite ils te mettent le premier. Alors ça commence à 21h par Cheech and Chong, Nice Dreams, de Tommy Chong, réalisé par Tommy Chong en plus en 81. Tommy Chong qui joue le rôle du patron d'un des mecs de That 70 Show, tu sais, le mec qui pense qu'à fumer des joints, qui est barbeau, chevelu, enfin il a gardé la même tronche qu'il avait dans Cheech and Chong et tout. Ouais, bah c'est vraiment excellent de toute façon. Et après 22h25, dont l'original, le premier film, hein, de Cheech and Chong, qui s'appelle Fou trouver le joint, quoi, enfin faut trouver le joint, comme bon, bah aux États-Unis ils ont du mal à trouver de quoi fumer et tout, donc ils vont au Mexique.
Attention, votre 70, merci.
Voilà, tout ça, donc
mais t'en avais déjà parlé en plus.
Ouais, non, mais là ils font une soirée spéciale, c'est sur Ciné Comédie vendredi prochain, donc à noter. Je sais pas si vous avez déjà remarqué sur Arte, quand vous voulez regarder un film et que vous avez la zapette qui vous permet de changer le multilingue, quand vous regardiez le film en français, vous zappiez, puis même si c'était un film américain, t'avais le truc en allemand. Alors tu te dis, ouais, bon bah attends, c'est un film américain, puis t'as soit le truc en français, soit le truc en allemand. Ça déconne. Eh bien, Arte rectifie le tir, et à partir de lundi, avec la zapette spécifique, hein, c'est-à-dire avec touche pilote et puis plus, et puis tu choisis ta langue. Là, tu pourras choisir la langue version originale du film que tu regardes sur Arte. Alors russe, si c'est un film russe, il y a un...
Ce sera aussi le cas sur la TNT. Hein.
Voilà, non mais bon, c'était pas le cas sur Arte. Alors bon, c'est moi j'ai déjà zappé des fois, je voulais regarder le truc en VO, et puis le truc, putain, il parle allemand maintenant, quoi, c'est bizarre, quoi. Eh ben non, bon, alors maintenant, spécial film d'horreur de la semaine. Hein. Ah ouais, il y en a une tapée, ça commence ce soir. Alors... ce soir, carrément, hein, sur Canal+ Cinéma, ils en parlent carrément dans le Mad Movie, là, tu vois, car il y a carrément un truc spécial dans Mad Movie sur la soirée de Canal+ Cinéma. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que programmer un film -16 à 20h50, faut le faire. En plus, quand il s'agit de The House of Thousand Deaths, la maison des mille morts de Rob Zombie, le premier, hein, de 2003, ben, il faut le faire quand même à 20h50. C'est sur Canal+ Cinéma ce soir, suivi par un -12 qui s'appelle Monster Man de 2003 de Michael Davis, et suivi à 1h05 de 2000 Maniacs de Herschel Gordon Lewis, qui est également -16. Hein, donc pas mal. Et en même temps, pratiquement en même temps, sur Cinéfix, un film un peu plus dispensable, mais enfin bon, le titre est marrant, ça s'appelle Trépanation de 88 de Graham Campbell avec John Rubens et Lidonier.
On sort pas de la peine de mort là.
Qui n'est que -12. Hein,
c'est Halloween bientôt, c'est pour ça, non?
Ben ouais, c'est Halloween bientôt. Sur le 13e rue, ça fait 2 semaines que j'en parle, c'est le mois de l'horreur. Alors donc, avec toute une série de films qui sont diffusés, il y en a qui sont pas mal, il y en a d'autres qui sont bons. On a vu Blair Witch avant-hier, hein, d'ailleurs, quoi, assez tard dans la soirée, quoi. J'ai pu me rendre compte vraiment que c'était quand même une daube, quoi.
Bah oui, c'est une merde, hein, ça.
C'est vraiment, quoi. Bon, bah ok. Lundi à 22h30 sur 13e rue, Joe Breaker, hein, un film de 99 de Darren Stein avec Rose McGowan. Charmed de la série, et Rebecca Gayhart. Ah ouais, mon vieux. Mardi, toujours sur 13e rue, à 22h45. Là, c'est du plus lourd quand même. Darkness de Jeremy Balaguerro de 2002, donc avec Anna Paquin, Anna Olin et Ian Glen, ça c'est du bon. Hein. Suivi de Action Mutante de Alex de la Iglesia, le premier énorme. De Alex de la Iglesia, donc qui avait été diffusé déjà cette semaine, hein, de toute façon quoi. Mercredi sur TPS Star à 21h, celui-là est dispensable, mais enfin bon, hein, c'est pour ados ça, c'est La Maison de Cire de Colessera. Qui a deux ans là avec Richard Kutberg,
avec Paris Hilton.
Paris Hilton.
Qu'est-ce que j'avais dit. C'était pas si mal. Hein. J'avais vu les critiques.
Bah, et comme elle est blonde, elle a qu'un seul texte.
Mais je crois que c'est pas si mal parce qu'il y a Paris Hilton qui meurt.
Ça c'est bien. Non, mais par contre, comme en même temps sur TPS Cine Extrême, en même temps, on diffuse mercredi prochain à 21h Amityville, La Maison du Diable de Stuart Rosenberg de 79. Avec James Brolin, Monsieur Barbara Streisand, avec Margot Kidder, Lois Lane, dans la version originale, non, oui. Rod Steiger et Don Stroud. Don Stroud, le pote de Stacy Keach dans Mike Hammer, tu sais, le flic là, qui est le seul qui lui sauve toujours la mise, plus ou moins, quoi. Ça vaut le coup. Non, le film est bien, quoi, vraiment Amityville, quoi. Vraiment excellent. Ensuite, on a mercredi également sur Ciné Cinéma Classique. Alors là, celui-là est pas mal, hein, Les Insatisfaites Poupées du Dr Hitchcock. Un film de Fernando Di Leo de 71. Surtout parce qu'il y a Klaus Kinski dedans, quoi. Là, ouais, il se lâche, hein, faut dire, hein, faut dire ce qu'il y a, il se lâche, quoi. Jeudi sur 13ème rue. La main qui tue à 20h50. Alors là, ça c'est une tuerie. Vraiment, t'as mort de rire, quoi. De Rodman Flender de 99. C'est gore, mais tu te pisses dessus de rire, hein, tellement que c'est rigolo. Avec Devon Sawa dans le rôle principal. Hein, c'était un jeune branleur, un nerd qui passe sa journée devant la télé à fumer des gros pétards, tu vois quoi. Et en plus, ce qui est vachement marrant, c'est que pour fumer les pétards, il a, tu sais, les petits inhalateurs de Ventoline et tout, quoi. Alors il démanchait le capuchon et il fumait que truc. Et il a le truc en bandoulière comme ça accroché.
donne pas des idées là.
Faut fumer dans du plastique, faut le faire quand même quoi. Il y a également Seth Green, hein, qui est un personnage récurrent dans la série Buffy, qui joue le rôle de Oz dans la série le loup-garou quoi.
Oui.
Voilà.
Ouais, le petit jeune
mais il crève au bout de 20 minutes. Hein, c'est un des potes, hein, de Devon Sawa quoi. Et alors, l'apparition de Jessica Alba à moto. Tout ça dans la main qui tue. Donc c'est jeudi prochain à 20h50. Me regardez-le parce que vraiment c'est rigolo. Hein, je veux dire, c'est vraiment et c'est bien foutu. Bons effets. C'est bon, truc bien gore quand même. Hein, c'est un film d'horreur quoi. Mais bon, tu te pisses dessus de rire quoi, vraiment quoi. Et c'est suivi jeudi prochain à 22h30 par La Nuit des Chauves-Souris, un film de Louis Morneau que je crois que j'ai déjà programmé ici en 99. Il est moins 12, hein, comme La Main qui tue, avec Lou Diamond Phillips et Dina Meyer entre autres.
Ah ouais
Dina Meyer, hein. Ouais. Il y en a qui ont vu Starship Trooper quand même.
On la voit bien d'ailleurs dedans.
Ouais. Bah sous la douche, hein, je veux dire. Ouais, pas de problème.
Je vais avoir des emmerdes, mais au taquet cette émission.
On finit dans des.
J'avais de bonnes relations avec le CSA, moi.
On finit avec de gros classiques vendredi sur Sci-Fi. Avec à 20h50 un classique de Carpenter, Fog.
Ouais.
Suivi d'un spécial blob. Merde. D'un spécial blob à partir de 22h20 sur Sci-Fi. À 22h20, c'est le blob de 88 de Chuck Russell avec Kevin Dillon. Et à 23h50, le blob originel, celui de 58, hein, de Irvin Yerworth avec Steve McQueen. Donc le blob 58 est vachement mieux, quoi, moi je trouve. Hein, parce que celui de 88, bon, le blob est vachement plus développé. C'est-à-dire, tu vois bien cette espèce de truc qui dégouline et tout.
Enfin, ça ressemble un peu moins à la gelée anglaise.
Ouais, c'est ça. Ça fait pas Jello, mais bon, l'original est quand même vachement mieux, quoi. Et il y a Steve McQueen dedans, quoi. Voilà. Ok, et c'est tout.
Et il n'y a pas Star Trek cette semaine?
Eh ben non, il n'y a pas de Star Trek.
Ne le relance pas, s'il te plaît, Thomas, parce que j'ai oublié de mettre le temps horaire. Il est 13h32 et 45 secondes, ce qui veut dire que on a bien débordé quand même. Mais néanmoins, si vous voulez réécouter si vous avez pris l'émission en cours de route et si vous avez manqué le début, peut-être il serait bon de savoir de quoi on a parlé tout à l'heure. Hein, Thomas?
Oui, nous avons eu une introduction loupée, mais scandaleusement loupée dans l'émission. Nous avons eu un lancement de CD loupé aussi. Ah non, il y en a eu deux. On avait un invité, Pierre-Yves, pour nuitdechine.org, de la boucherie hongkongaise, du clochard liquéfié, une fillette cramée et vivante à l'essence, un topo sur la chaise électrique et une spéciale film d'horreur.
Et tu oublies Lucie, où quand même il est question de l'assassinat d'un très mauvais message en scène d'un
très bel opéra.
D'un très bel opéra, voilà, qui est en cours de représentation à Paris. Donc c'est pas pour nos amis qui nous écoutent sur la FM, mais néanmoins vous pouvez nous réécouter sur le net www.radio-fmr.net. Vous tomberez sur le site de l'émission si vous cherchez Supplément Week-end. Et vous pouvez réécouter toutes nos émissions et donc réécouter la très belle prestation de Pierre-Yves de nuitdechine.org. Merci d'être venu.
Avec plaisir, Xavier.
C'est quand même un bonheur tout à fait partagé. La suite des programmes tout de suite du sport, 15h je crois qu'il y a du reggae, 17h après les suites zou, avec les fiches Big Bang, 18h Victoire Dure, 19h on est chez nous, 20h la Stétéro Expérience et 21h30 Stay Tuned. Et en attendant, on tasse les feuilles et on se bat. Ciao, bye.
Ciao.